Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le pédalo sur Radio Campus Angers. Au programme de ce soir, on commencera par un tour du côté de Segré en Anjou Bleu, puisqu'Alexis a pu discuter avec Émilie, directrice depuis quelques mois de Centrale 7, un lieu qui accueille depuis 2006 des artistes dans les friches des anciennes mines et qui propose aussi régulièrement des ateliers. Alors qu'aujourd'hui se tiennent à travers le pays de nouveaux rassemblements contre le racisme et les violences policières, nous vous proposons d'écouter ensuite un reportage de Violette Voldoir réalisé pour nos camarades de Radio Parleur. Elle était présente au rassemblement parisien de mardi dernier qui a initié ce mouvement de protestation et est allée à la rencontre de manifestantes et manifestants qui ont plus de choses à vous raconter que l'actrice qui interprète Julie Lescaut. Enfin, pour terminer, on retrouvera Iris pour une nouvelle chronique décalée. Elle nous parle aujourd'hui d'une victime collatérale du Covid-19 dont on a trop peu parlé. Mais on commence tout de suite par l'interview par Alexis d'Émilie de Centrale 7.
Alors bonjour Émilie, vous êtes la directrice de l'association Centrale 7, installée depuis 2006 sur le site des anciennes mines de fer à Nuoiseau. Vous proposez des ateliers pour les artistes et les compagnies et participez à la création et à la diffusion artistique en milieu rural. J'ai donc fait très rapidement une petite présentation de votre association. Ai-je oublié des choses ?
Non, c'est déjà dans la globalité. Centrale 7 existe depuis 2006. L'objectif principal de l'association était de développer l'art en milieu rural et de sensibiliser les publics et valoriser le patrimoine sur de l'ancienne mine de fer. Voilà.
Qu'est-ce qui vous a motivé à... Je ne sais pas si vous étiez dès le début du projet en 2006, mais si oui, qu'est-ce qui vous a motivé à monter la Centrale 7 ?
On a une toute nouvelle équipe cette année. Moi, je suis arrivée le 1er février 2020. Donc, c'est vraiment tout récent. Par contre, le fondateur de Centrale 7, c'est Jimix. Il est arrivé sur le site en 2003-2004 et il a souhaité créer l'association pour proposer différents événements autour de l'art et de la création et de la culture.
Et vous savez si les démarches ont été difficiles pour trouver et s'installer dans ce lieu à ses débuts ?
Alors, j'ai pas toutes les informations. En tout cas, je sais que le bâtiment appartient à la commune de Segré. Voilà, on est locataire. Il a fait toutes les démarches pour monter l'association, pour un petit peu cadrer le projet. Et puis pouvoir être soutenu au niveau local et aussi régional et départemental.
Et Centrale 7, c'est une association. Vous avez combien de bénévoles qui travaillent avec vous ?
Alors aujourd'hui, on est deux salariés. Moi-même et Bénédicte Chautard, qui est la médiatrice culturelle, qui est à temps partiel. Sinon, il y a donc tous les artistes permanents de l'association qui sont bénévoles aussi pour développer Centrale 7. Et aussi, on a des bénévoles extérieurs qui nous aident régulièrement sur les journées chantiers, sur les événements et qui sont toujours présents tout au long de l'année. Voilà, au niveau des adhérents, on est en moyenne à une cinquantaine. Ça dépend des années en fait. Cinquantaine, là on est arrivé à une quarantaine en début d'année, mais on espère en faire plus pour l'été.
Et justement, vous accueillez des artistes et des compagnies de théâtre ou d'art vivant. Comment vous les choisissez, ces artistes et ces compagnies ?
Alors, on a des demandes directement, par mail ou par téléphone. Il y a des compagnies, et pas que, hein, ça peut être aussi des artistes plasticiens qui souhaitent faire une résidence pour une semaine, un mois. Et qui demandent un atelier ou un espace pour créer, et aussi qui peuvent aussi proposer des ateliers au niveau du public, de tout le public.
Et est-ce que vous organisez aussi des expositions ?
Oui, ça c'est toute l'association Centrale 7 a tout son objectif premier est vraiment de développer l'art et l'art plastique et tout l'art en général, donc dans le secteur du pays de Segré. Donc l'idée, c'est vraiment de proposer des expositions régulières. Donc en général, il y en a entre 2-3 par an, ça dépend des périodes, ça dépend aussi des années. Mais voilà, c'est de proposer différents styles aussi. Là, par exemple, l'exposition pour cet été, qui devait commencer normalement au mois de mars, donc tout a été décalé bien sûr, et l'exposition pour cet été, c'est l'exposition de Tim Nash, qui est un illustrateur, et voilà, elle aura lieu du 4 juillet à notre ouverture jusqu'au 31 août.
Cela fait plus de 14 ans que vous êtes installé donc ici. Comment vous expliquez la longévité et le succès de Central 7 ?
Alors, tout d'abord, avec la motivation de tous les artistes qui ont pu succéder, les salariés qui sont succédés aussi en poste ici, pour développer et toujours enrichir un peu plus l'association. Et aussi grâce au soutien et aux partenaires au niveau des institutions, que ce soit au niveau de la commune, que ce soit au niveau du département, de la région, et de l'État aussi. Donc on a une partie de notre budget qui sont des subventions de tous ces partenaires. Pardon.
Et quelles sont les principales difficultés que rencontre une association culturelle comme la vôtre quand on s'installe en milieu rural ?
C'est d'attirer le public jusqu'à nous. Alors ce qui est notre richesse, c'est le site, parce que c'est des anciennes mines de fer et c'est un lieu vraiment unique en Europe. Donc c'est vrai que ça attire des visiteurs, mais par contre, étant donné l'emplacement géographique, c'est des fois un peu difficile quand même d'amener le public et d'avoir un autofinancement conséquent pour pouvoir continuer à vivre, quoi. Donc il faut trouver toujours de nouvelles idées de développement, de projets pour pouvoir continuer à se développer.
Et justement, comment se passent les relations avec les habitants et même les politiques locaux ?
Dans l'ensemble, très bien. Alors, j'ai pas le recul nécessaire pour vous en parler, puisque moi, ça fait pas très longtemps que je suis là. Et en plus, on est arrivé à la mauvaise période où on a été en confinement pendant 4 mois. Ça sera 4 mois début juillet. Donc, en tout cas, ce que j'ai pu retenir, c'est qu'on a vraiment un soutien au niveau de la commune de Segré, au niveau donc des élus et des différents agents qui nous soutiennent et également au niveau de la région. Voilà. Donc les habitants, pour l'instant, j'ai pas encore eu connaissance directe, quoi.
Et est-ce que vous travaillez en lien avec d'autres structures similaires ? Je pense notamment au Centre d'art de Montrelais.
Ah oui, il y a des partenariats réguliers. Il y a aussi des appels à projets sur différents projets, par exemple là avec au niveau de la mairie d'Angers, on en a eu un. Au niveau aussi, il y avait à Montjean-sur-Loire, normalement il y avait un symposium qui a lieu tous les ans. Malheureusement cette année il a été annulé, donc on a annulé aussi notre venue. Il y a différentes structures avec qui on peut aussi être en lien. Voilà, après il y a quand même des bons partenariats au niveau régional et local aussi.
Alors justement, vous parliez du confinement, quel a été l'impact de la Covid-19 sur l'activité de la Centrale 7 ?
Alors on a perdu, on a eu une grosse perte financière, je l'ai estimé à une hauteur de plus de 15 000 euros à peu près. Donc tous les ateliers donc ont été annulés, puisque nous tous les ateliers de pratique artistique se font auprès des structures scolaires, des centres de loisirs, des structures spécialisées, donc forcément tout a été annulé. Les artistes se sont retrouvés sans travail, puisque les expositions également ont été annulées, les événements ont été annulés, et donc nous on est encore actuellement au chômage partiel là, jusqu'au mois de là, jusqu'à juin. Parce qu'on a dû vraiment limiter les frais et par contre essayer de trouver du soutien justement auprès de nos partenaires.
Ça va demander une sorte de démarchage en plus, enfin de trouver peut-être des nouvelles ressources.
Voilà, exactement. C'est pour ça qu'en fait cet été on a décidé avec l'ensemble de l'équipe, que ça soit ma collègue en salarié et puis toute l'équipe de Central 7, on a décidé de proposer une programmation estivale. Éclectique. Alors forcément autour des ateliers de pratique artistique en semaine, on souhaite proposer des ateliers tous les mardis, mercredis, jeudis de l'été avec plusieurs thématiques, que ce soit autour de la peinture, de la sculpture, ça peut être aussi quelques spectacles vivants. Et donc, il y aura également des événements tout au long de l'été, entre juillet, août et septembre, pour essayer de redynamiser un petit peu le site, de donner envie au public de revenir nous voir, de donner un petit peu d'énergie à tout le monde, que ce soit les artistes, les visiteurs. C'est vraiment l'idée, en fait, de proposer une programmation qui donne envie de ressortir, on va dire.
Et justement, est-ce que vous avez des projets ou des événements aussi peut-être à plus long terme ?
Des projets, on en a, oui, on en a beaucoup, on en a plein. Alors après, on va essayer de sélectionner, de voir ce qui est le plus important pour Centrale 7. On veut toujours, nous, notre objectif premier, c'est toujours l'art en milieu rural. Et en lien, on va proposer également des événements liés au spectacle vivant. Et à la création aussi, pour un petit peu ouvrir les visiteurs et le public à de nouvelles pratiques, et puis à peut-être s'essayer à différentes techniques de création, et voilà. L'idée là, par exemple, pour cet été, donc il y a toujours des candidatures spontanées au niveau des artistes, parce que c'est un lieu vraiment qui donne envie de créer, de visiter, de vraiment, quand on est sur le site, c'est assez magique pour... au niveau de la création et de l'envie de faire des choses. Et j'ai également, à côté de cela, de fait un appel à artistes sur les réseaux sociaux pour essayer de trouver aussi de nouvelles énergies et puis de faire connaître un peu plus le lieu.
Donc, si jamais des auditeurs auditrices sont intéressés, ils peuvent vous contacter pour vous rejoindre en tant que bénévole.
Voilà, là, ça va être parce qu'au niveau des artistes, on a eu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. C'est vraiment chouette parce que ça redonne un petit peu de baume au cœur en cette période où ça remotive en se disant on va faire quelque chose de notre été. Donc il y a beaucoup d'artistes, que ça soit plasticiens, spectacles de rue, concerts, enfin musiciens, etc., qui sont proposés. Donc au niveau de la programmation, là, je pense que on a vraiment l'embarras du choix. Par contre, maintenant, oui, à l'heure d'aujourd'hui, on va chercher des bénévoles pour nous aider pour tout l'été. Parce qu'il va y avoir un petit peu de travail pour animer tout ça et préparer.
Ben, en tout cas, si les gens souhaitent en savoir plus, donc vous avez un site, Centrale 7, un site web, je veux dire. Vous avez aussi une page Facebook où on peut retrouver un peu votre actualité. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ou est-ce qu'on peut vous suivre votre actualité par un autre moyen ?
On a un compte Instagram, Centrale 7, on a également un compte Twitter, Centrale 7, et puis sinon, faut pas hésiter à venir nous voir, en ce moment on est encore fermé, mais à partir de début juillet, on sera ouvert toute la semaine et de temps en temps le week-end, et on va essayer de communiquer régulièrement pour annoncer tous ces événements, et sinon, vous pouvez aussi appeler au 02 41 61 30 34 ou par mail à contact@centrale7.net.
En tout cas, merci beaucoup. Je pense que le message est passé à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices. En tout cas, merci Émilie d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Puis n'hésitez pas à aller sur le site web pour suivre toute cette actualité et tous les moyens de communication qu'on a énoncés avant. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci vraiment. Merci. À bientôt.
J'en profite aussi pour vous rappeler que Centrale 7 organise sa générale le samedi 4 juillet à partir de 15h. Vous pourrez retrouver les membres de l'association, les artistes, au programme des concerts, des expositions, des DJ sets. Bref, n'hésitez pas à venir leur rendre visite.
Et merci à Alexis pour cette interview. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants, juste après Taifu et le titre History of Colors. 18h18 dans le Pédalo sur Radio Campus Angers. Nous allons tout de suite écouter, alors que se tient en ce moment même un rassemblement contre les racismes et les violences policières, à la fois à Angers mais aussi partout en France, on va écouter un reportage réalisé par Violette Voldoire pour nos camarades de Radio Parleur. Elle était présente mardi dernier au grand rassemblement parisien qui a initié ce mouvement de protestation générale et est allée à la rencontre des manifestantes et manifestants.
Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.
C'est une foule vraiment cosmopolite avec des Français de toute origine. C'est très positif, il y a des familles, il y a des enfants, il y a beaucoup de jeunes.
Beaucoup de messages politiques aussi.
Beaucoup de messages politiques aussi, ouais.
Le long des rues qui mènent au nouveau tribunal dans le quartier des Batignolles à Paris, des colonnes ininterrompues de manifestantes et de manifestants affluent. La plupart sont habillés de sombre en hommage à George Floyd et Adama Traoré. Sur le parvis du tribunal, sa sœur Assa semble minuscule. Elle se tient le poing levé au milieu de la marée humaine qui a répondu à son appel sur les réseaux sociaux pour dénoncer une énième expertise affirmant qu'Adama Traoré ne serait pas mort à cause du plaquage ventral pratiqué par les gendarmes il y a 2 ans. Le rassemblement n'a pas été déclaré, mais tout de même interdit par le préfet de police Didier Lallement. Et cela n'a pas dissuadé les 20 000 protestataires qui ont fait le déplacement. Les visages sont calmes et déterminés et les slogans très politiques.
Anaïs, je m'appelle Anaïs.
Et qu'est-ce qu'il y a écrit sur votre pancarte ?
Sur ma banderole, c'est écrit « être protégé et pas tué ». Je suis venue porter ce message-là parce que moi, je fais partie des quartiers, ce qu'ils disent, entre guillemets, populaires. Et en fait, des fois, j'ai peur de sortir de chez moi parce que souvent, chez moi, y a beaucoup de policiers et souvent, y a beaucoup de bavures. Et j'ai mon frère qui s'est fait tabasser. Il ne sait même pas pourquoi il s'est fait taper parce qu'en plus, il avait son attestation.
C'était pendant le confinement ?
Oui, c'était pendant le confinement. Et aujourd'hui, il a un gros coca et voilà.
Est-ce que je peux vous demander où vous habitez ?
J'habite à Colombes.
D'accord, donc là où il y a eu aussi pas mal de violences policières qui ont été recensées, est-ce que votre frère, il a pu porter plainte ?
Ben non, il avait peur, parce que chez nous, il y a la BAC, et que quand on vient porter plainte contre la police, ben en général, la plainte n'est pas prise en compte, tout simplement.
Que cette peur que vous avez de sortir, de vous retrouver confronté à la police, vous l'avez toujours eue ?
Je l'ai toujours eue parce que j'ai pas mal d'amis aussi qui se sont fait tabasser. J'en ai un qui s'est fait embarquer par la BAC, mis sur le port et tabassé. Donc non, c'est pas... c'est courant.
Je m'appelle Eden.
Vous avez quel âge ?
32 ans.
Vous avez suivi un petit peu l'affaire Adama Traoré,
oui,
ou pas ?
Oui, moi j'ai suivi l'affaire, oui.
Et qu'est-ce que vous pensez du tout de ce dernier développement, qui est celui de l'expertise judiciaire venant dire que Adama Traoré n'est pas mort à cause de la police ? Est-ce que ça vous a heurté ? Est-ce que voilà, ça vous a surpris ou pas du tout ?
Bon, en fait, je comprends même pas qu'est-ce qu'ils essayent de convaincre de ça. Je comprends même pas. Donc pourquoi est-ce qu'ils n'avouent pas des choses qui sont admises et qui sont sues de tous, quoi ? C'est plus que ça m'interpelle. On est en incompréhension face à ça et on a l'impression qu'on nous prend vraiment pour des imbéciles.
T'es encore sous le péril ?
À la base, le but, c'est qu'il y ait une entente cordiale entre tout le monde. Et franchement, j'ai l'impression que c'est comme ça que ça va se passer là, non ? Qu'est-ce que t'en penses ?
Ouais.
Ouais. Bah, aux États-Unis, il y a un shérif qui a manifesté. Vous avez peut-être vu ça, un shérif qui a manifesté avec la foule.
Parce que tous les flics ne sont pas racistes ou violents, en fait. Donc c'est vrai qu'il faut, le rappeler. Mmh. En fait, on n'est pas contre la police, on est contre les racistes. Dans la police, il y a des racistes et il y a vraiment des...
Et ne devraient pas être protégés par le système. Ouais.
Donc on est en révolte contre le système qui protège aussi cette police, ce qu'on appelle la white supremacy. Elle existe vraiment. C'est pas une légende, elle existe vraiment. Et je pense qu'en plus de ça, la nouvelle génération des types caucasiens blancs, qu'on appelle blancs, ne sont pas du tout comme ça, et c'est à eux aussi de se révolter contre cette ancienne suprématie blanche.
Est-ce que je peux juste vous demander votre prénom ?
Inès Rowe.
Est-ce que vous pouvez me dire aussi un petit peu pourquoi, pour vous, c'était important d'être ici aujourd'hui ?
Ben moi, c'est important d'être là aussi en l'honneur d'Adama Traoré, George Floyd, toutes les personnes qui ont été tuées par la police, par le racisme, mais aussi au nom des trans, de la communauté trans, parce qu'on oublie souvent que les personnes de couleur trans, notamment aux États-Unis, etc., et eux, mais alors déjà d'être black, on te traite un peu comme de la merde souvent, les flics, mais alors quand t'es trans et que t'es black en plus, mais alors là, c'est... Il n'y a aucun respect, il y a vraiment des bavures qui sont faites et tout. Et donc du coup, je suis là au nom de ma communauté, la communauté trans, notamment la communauté black trans, en leur nom aussi, parce qu'il ne faut pas les oublier, ils sont vraiment victimes d'oppression et de violence aussi.
Et vous aviez une pancarte ?
I can breathe. Alors, j'en ai une autre. Pas de justice, pas de paix, qui est encore plus juste par rapport à ce qu'on essaie de dire aujourd'hui.
Pas de justice, pas de paix, c'est le slogan qui accompagne le combat Vérité et Justice pour Adama Traoré. Et I can breathe, c'est plutôt relatif à l'histoire de George Floyd. Laquelle de ces deux histoires vous interpelle le plus ?
Je trouve que les deux sont liés, parce qu'en réalité, quand on est noir en France et quand on est noir aux États-Unis, on n'est pas traité de la même manière que les personnes blanches. Et c'est ce qui lie les combats, à mon avis. C'est que je pense qu'il y a une prise de conscience internationale des discriminations et de la différence de traitement entre les non-blancs et les blancs.
Ben, les gens, ils pensent que c'est normal de manifester, mais ils ont peur de manifester. Parce que regardez, la manifestation a été déclarée et ils ont refusé la manifestation. Et ça, c'est pas normal. On a le droit de manifester. C'est notre droit. Et ils n'ont pas le droit de nous l'enlever.
J'ai une dernière petite question. Après, je vous laisse tranquille. Mais est-ce que vous, à votre avis, vu le monde qu'il y a ici aujourd'hui, la société vous semble un peu plus mûre pour sortir du déni,
moi,
justement, sur ces violences-là?
Ce qui me bouleverse, c'est la nouvelle génération, là. La génération des 20 ans. Ils sont beaux, ils sont ouverts d'esprit, ils sont solidaires, ils sont dans la rue. Et dans le monde entier, c'est comme ça. La nouvelle génération va faire de ce monde un meilleur monde. J'en suis persuadée, ça se voit. Les gens sont jeunes. Toute la jeunesse est là. Et moi, ça me bouleverse. Je trouve ça magnifique.
Il y a une prise de conscience. C'est un début, mais c'est vraiment juste le tout début du combat, quoi.
Merci beaucoup à Violette Voldoir pour ce reportage. Vous pouvez le retrouver ainsi que beaucoup d'autres choses très intéressantes à écouter sur le site de Radio Parleur, radioparleur.net. Et si vous le souhaitez, il est encore temps de rejoindre le cortège angevin qui doit être en ce moment entre la place du ralliement et le boulevard Foch et qui se terminera devant le palais de justice. Quant à nous, on revient dans quelques instants avec la chronique d'Iris. Ça sera juste après Home et le titre The Limit. Below. 18h30 sur Radio Campus Angers, toujours dans le pédalo. Et avant de conclure cette émission, on a juste le temps d'écouter la chronique d'Iris.
Bonjour, bonjour tout le monde. Oui, aujourd'hui je n'ai pas des bonnes nouvelles. Comme vous le savez, depuis le début de cette folie, de cette pandémie, les lots de disparition, d'annulation, de liquidation, de dissolution, ils ne cessent pas de grimper. Qu'est-ce que c'est triste. Bref, en effet, vu le contexte actuel, il me semble très important de saluer la mémoire d'un accessoire, lui aussi victime de la crise. C'est tellement cruel. La sentence finale, disparition, lui a été déclarée avec tous les appels, rappels, des messages de prévention contre le Covid-19. Utiliser un mouchoir à l'usage unique. Oui, c'est la fin du mouchoir en tissu à l'usage multiple. On sait qu'il vivait en souffrance depuis longtemps, mais il est en train de disparaître et personne n'en parle. Mais vous vous rendez compte que c'est une page qui se tourne, aussi bien d'un point de vue hygiénique qu'esthétique. Ah, le mouchoir en tissu, un coton, carré, blanc ou bleu ciel, parfois bordé des initiales de son propriétaire, avec son moukou séché oscillant entre le jaune, le vert, le marron. Et les bruits qu'on l'associe, les odeurs. Ah, ce lifestyle complet comprenant guêpes en tweed, pantalon en velours marron, la vieille galloise, l'Arnaud 5 et les rougeurs faciales causées par la boue de soleil de boissons alcalisées. À savoir que cet accessoire est apparu en Occident à la fin du Moyen-Âge et fut longtemps un objet de luxe, réservé à une élite désireuse de se distinguer de la masse aux doigts coulés de morve. Synonyme de classe, d'élégance. Et ses multiples fonctions, on les ignore? Non, il permettait d'essuyer, de cirer, d'éponger, de dépoussiérer, de protéger le nez en cas de mauvaise odeur, de cacher les larmes ou l'absence de larmes lors d'un enterrement, de combler le vide à l'heure d'un au revoir. C'est donc depuis l'invention des mouchoirs en celluleuse par Kleenex en 1924 qui a marqué le début de la fin de l'histoire de ce petit nid à microbes. Si t'en emportais un sur la tête dans le crabe aux pinces d'or pour se protéger du soleil, et si quelques élégantes manières aimaient le transformer en pochette, le glissant dans la poche poitrine de leur veste, qui contenait ce moucher à l'intérieur? On sait rien. Trop contraignant, trop répugnant, trop ni à microbes, surtout. Beaucoup trop, selon une étude menée par l'étude Pasteur dans les années 60. Ceci faisait clairement partie d'un groupe à risque lors de la pandémie. Et de nos jours, est-il le cas? Beaucoup trop écolo. Comment ne pas aider quelques entreprises à surmonter la crise qui s'installe? Oublions le mode écolo pour quelques mois. Pensons aux emplois de nos compatriotes. Verserons-nous une larme à leur mémoire? Ben non. Il serait bien trop cruel de les souiller dans un mouchoir à l'usage unique. Au revoir, mouchoir en tissu. Tu es foutu. Je vous souhaite une belle fin d'émission et à très vite, chers auditeurs.
Merci beaucoup Iris pour sa chronique. Quant à nous, il est déjà l'heure de nous quitter. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve dès demain pour un nouveau pédalo. Très belle soirée à toutes et à tous.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.